BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business avec mes trois experts du jour, Christian Poyot, Hervé Novelli et Thomas Grébin, pour parler croissance. C'est plutôt une émission bonne nouvelle ce matin et ça fait plaisir parce que c'est pas tous les jours quand même. 93 milliards de promesses d'investissement, on l'a dit, recensées hier à Choose France. La France attire les capitaux étrangers et c'est tant mieux. L'autre bonne nouvelle du jour qui est passée totalement inaperçue, c'est la révision de la croissance par l'INSEE des années passées. Alors, c'était vendredi dernier. On a simplement retenu que l'INSEE avait révisé à la baisse la croissance du premier trimestre. On croyait que c'était zéro. L'INSEE a révisé à -0,1. On est dans l'épaisseur du trait, mais quand même, l'économie se contracte. Ce qu'a vu Anthony Morlet-Lavidali, je veux le citer, économiste chez Rex et Code et invité régulier, il sera là en fin de semaine, invité régulier des experts, c'est que l'INSEE a massivement révisé la croissance française de 2023 et 2024. Thomas Grébin, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait beaucoup mieux que prévu.
Oui, on a fait mieux que prévu. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très difficile.
Ah ben non, mais ne gâchez pas avec une mauvaise nouvelle tout de suite, Thomas.
Non, c'est pas une mauvaise nouvelle.
Allez, commençons par les bonnes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Ça montre la difficulté d'être statisticien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La plus grosse révision, c'est en 2023. Donc, on est en pleine période inflationniste. Or, quand l'INSEE mesure la valeur ajoutée, le PIB, elle le fait en valeur. Et oui. Ensuite,
c'est-à-dire avec l'inflation.
Et ensuite, il faut corriger justement il faut corriger de cette inflation pour obtenir des volumes. Et c'est très compliqué parce que en période inflationniste, où les prix évoluent différemment selon les secteurs, et donc c'est compliqué de faire cette correction. Une autre difficulté, c'est donc la valeur ajoutée. Il faut prendre en compte les consommations intermédiaires. Et là aussi, lorsque vous êtes dans une période inflationniste où il y a beaucoup de choses qui bougent et qui bougent différemment selon les secteurs, là aussi,
y compris des ruptures de supply chain, etc. Exactement. C'était une période très compliquée.
Ces consommations intermédiaires sont aussi très difficiles à mesurer, à bien prendre en compte. Et la majeure révision qui a eu lieu, donc c'est sur le PIB et plus spécifiquement, c'est sur la valeur ajoutée du secteur manufacturier. Donc, c'est là où ça a été...
C'est ça, la bonne nouvelle.
Ex post, une bonne nouvelle, c'est que par rapport aux prévisions, aux premiers chiffres de l'INSEE, il y a 5 points de différence sur la valeur ajoutée du secteur manufacturier, en particulier parce qu'on avait un peu sous-estimé les chiffres dans l'aéronautique.
Donc, bon, c'est encore une fois, c'est aussi ça qui plombe le résultat du premier trimestre d'ailleurs, c'est les retards de livraison d'Airbus. L'aéronautique pèse très lourd. Hein.
Ouais. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Après, aujourd'hui, quelques années après, bon, c'est pas ça qui change fondamentalement la réalité de l'économie française. En tout cas, on allait mieux que ce qu'on pensait à l'époque.
L'autre bonne nouvelle, c'est ce que nous dit aussi Anthony Morlet-Lavidali de Rex et Code, c'est que la part de l'industrie dans le PIB repasse au-dessus des 10%. Alors, je rappelle qu'en un quart de siècle, on est passé grosso modo de quasiment 20% à moins de 10%. Hein. C'est le résultat de la désindustrialisation. Là, on repasse juste au-dessus une barre symbolique. On continue dans l'esprit des hauts fourneaux, Hervé Novelli.
Oui, il n'y a pas de quoi. On était à 9,5, on passe à 10,5. Compte tenu des marges d'erreur, parce que je veux quand même... l'INSEE est un institut extraordinairement réputé.
On a parmi les meilleurs statisticiens du monde, il faut saluer leur travail.
Et qu'il y ait des erreurs à ce niveau montre que, comme l'a dit notre ami, la chose est difficile.
Donc, il
faut relativiser aussi cette remontée, ne pas en faire une remontée symbolique sur le thème « c'est fini, on réindustrialise, c'est bien parti ».
Non. Non, mais pardon. On passe de 1 à 2% de croissance en 2023. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Effectivement.
Vous avez raison.
Christian Poyola, mais il faut la volonté, l'optimisme de la volonté. Comme
sur
disait l'autre.
Bon.
Non, mais pardon. En fait, le sujet de fond, les amis, c'est quand même depuis 2024, la dissolution. On n'arrête pas de dire que la croissance va être catastrophique. On a fait mieux que prévu l'année dernière. On a dit que la crise inflationniste avait été catastrophique. Les Français ont été massivement protégés. Et on voit que l'économie française a fait deux fois mieux que prévu, c'est pas rien quand même. Et aujourd'hui, eh bien, on voit d'excellents résultats sur l'attractivité. on est en train d'expliquer qu'on va probablement vers une récession technique, je trouve qu'à chaque fois, on se fait un peu les porteurs des messages de malheur et que les entreprises sont hyper résilientes en réalité.
Ouais, alors avant de revenir là-dessus, juste en marque sur l'industrie. Bon, c'est vrai que l'industrie a fortement baissé pendant ces 10-20 dernières années. N'oublions pas aussi qu'il y a eu beaucoup d'externalisation. Donc comparer les deux chiffres de 20 et de 10, c'est un petit peu faux. Maintenant, l'industrie a fortement baissé et c'est dramatique en France. Bon. Après, est-ce que les entreprises sont devenues plus résilientes? Oui, c'est indiscutable. Enfin, entre le Covid, l'Ukraine, je parle même pas des gilets jaunes avant, l'énergie, là maintenant l'Iran et compagnie, elles se sont mithridatisées, comme on dit souvent. Voilà, à force d'avaler du poison, elles sont un petit peu.
Elles se sont renforcées. La permacrise les rend plus résilientes, plus agiles,
d'être plus agiles, plus efficaces, d'être plus souples, d'être. Alors, des fois, c'est au détriment de l'investissement parce qu'effectivement, être plus agile, ça permet pas de dire ok, on a fait un investissement de très long terme, des choses comme ça. Mais c'est quand même quelque chose de positif. Mais où est la surprise? Est-ce que le tissu économique français est de grande valeur? Il y a beaucoup d'entrepreneurs en France. Il y a une volonté de se développer. Et on a des secteurs dans lesquels on est très performant. On a des grandes entreprises, le CAC 40, malgré le fait que certains passent leur temps à taper dessus, qui sont vraiment au niveau mondial très bien implantés. Donc voilà, on a plein d'atouts, encore une fois. Donc je suis, moi aussi, tout à fait d'accord pour dire, regardons le verre moitié plein. On est dans une période compliquée. La politique française, pour le coup, n'aide pas. Ça, c'est évident. Et on verra ce qui se passe en 2027. Mais oui, on a les capacités. Mais peut-être la conclusion de tout ça, c'est aidons les entreprises. Enfin, aidons les entreprises. Ou libérons-les.
Moteur et
c'est
elles qui créent de la valeur.
On dire un mot là-dessus. Ah, c'est qu'il y a aujourd'hui une fibre entrepreneuriale en France. Ça n'a pas toujours été le cas.
On n'a jamais créé autant
d'entreprises. Quand on interrogeait les Français, la majorité des jeunes étudiants, ils voulaient être fonctionnaires. Aujourd'hui, ceci s'est inversé. Mmh. On souhaite créer son entreprise. Donc la diffusion de l'entrepreneuriat dans la société française est une chose acquise. Et avec ça, l'opinion change son regard sur l'entrepreneur. Avant, c'était l'accapareur, pour faire simple ou caricatural. Aujourd'hui, ça devient une sorte de héros. On n'est pas encore totalement parvenu, mais il est parmi l'entrepreneur et vu par l'opinion publique comme une des personnalités les plus sympathiques ou porteurs de positifs. Et c'est une très bonne chose, il faut continuer. Et c'est pour ça que je me bats aussi. Hein.
Vous parliez de l'opinion publique. Moi, c'est un article de l'Opinion signé Marc Vigneault qui m'a alerté sur ce sujet. Vous pouvez aller le lire. C'est aujourd'hui dans le journal. Je souligne un dernier point. Hein. On a aussi fortement révisé la dynamique d'investissement des entreprises et la baisse de la productivité qui est moins grave que prévu. Donc finalement, c'est quand même vachement mieux. Et c'est tant mieux. Je voulais qu'on en parle ce matin. Thomas Grébin, je me tourne vers vous pour le dernier sujet. Il est 10h09. On est toujours ensemble hein, pour une petite vingtaine de minutes sur un débat absolument majeur. Vous avez commis avec deux autres économistes un rapport pour le Haut Commissariat au Plan sur le sujet qui a fait beaucoup de bruit. Donc on continue de parler aujourd'hui sur les moyens de se défendre commercialement face à la vague chinoise. Aujourd'hui, c'est l'OCDE qui tire la sonnette d'alarme sur, je cite, une concurrence très déloyale des entreprises chinoises face aux pays de l'OCDE. On voit bien que le ton monte. Qu'est-ce qu'il nous dit d'abord? Est-ce que vous pouvez nous dresser les principaux enseignements de ce rapport?
Bon, ce rapport, il est sans surprise, mais c'est intéressant que...
Il donne des chiffres intéressants quand même.
Il donne des chiffres
sur les
intéressants,
subventions
mais
chinoises.
C'est intéressant que l'OCDE, qui était une institution très prudente...
Porteur de libre-échange et de la concorde internationale, hein, normalement.
Ce sort des chiffres sur, en effet, les aides massives accordées par les autorités chinoises à leurs industries, presque 6 fois supérieures à ce que font les pays de l'OCDE. Ils ont aussi un autre chiffre intéressant, c'est que quand on regarde les gains de part de marché à l'international des industries chinoises, 60% selon eux s'expliquerait par ces aides massives. Donc c'est quand même spectaculaire. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la rapidité du changement de logiciel. C'est-à-dire que ce soit les institutions internationales qui mettaient un voile pudique sur ces questions pendant des années. Vous avez évoqué aussi Bruxelles. C'était quand même assez extraordinaire qu'à Bruxelles, vendredi dernier, on discute quand même des moyens très forts pour contrer le rouleau compresseur chinois. Le président de la République, Emmanuel Macron, il y a une dizaine de jours, a proposé, par exemple, l'instauration au niveau européen d'une section 301 à l'américaine.
Inspiré, voilà, du modèle américain.
Le fait que vous puissiez prendre des représailles, non plus seulement sur un bien particulier, mais pour défendre des secteurs entiers. Et donc là, véritablement... Alors, on peut dire que pour l'instant, ça n'est pas opérationnel. Mais on voit en tout cas dans le débat européen, dans le débat international, les choses évoluent quand même assez rapidement.
Les commissaires ont été mandatés vendredi à la suite de séminaires pour faire des propositions à un conseil, pour le prochain conseil, fin juin, des chefs d'État et de gouvernement. Ce qu'ils proposent, c'est d'abord de fermer le marché dès qu'il y a une menace de dumping et ensuite de mener enquête plutôt que d'abord faire une enquête et de fermer au bout de 9 mois et de traiter de filières entières plutôt que d'entreprise par entreprise. Christian Poyot.
Moi, j'avoue que je découvre que la Chine faisait la concurrence déloyale. Je ne savais pas du tout, je n'étais pas au courant. C'est vraiment surprenant. Non, mais de qui se moque-t-on, je suis d'accord avec votre analyse.
On prend la mesure de l'ampleur. Sept fois plus d'aide publique que les entreprises européennes.
Évidemment, mais quand on dit, où je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit, la rapidité de réaction, mais de qui se moque-t-on? Ça fait 20 ans qu'on le sait. Ça fait 20 ans. Le fait que les Chinois se comportent de manière déloyale profitent d'avoir été être rentrés dans l'ONC, mais parler à n'importe quelle entreprise, ils le savent depuis très longtemps. Donc, les institutions européennes se réveillent. On est le 2 juin 2026. Ah, quelle surprise!
La différence, c'est qu'ils n'ont pas monté en gamme et que maintenant, ils sont plus innovants que nous et viennent nous tailler des croupières sur les voitures, sur les panneaux solaires,
batteries, etc. Oui, mais les panneaux solaires, ça ne date pas d'il y a 5 minutes quand même, les panneaux solaires. Et avant, alors peut-être que maintenant, ils attaquent sur toutes les industries. Avant, il y avait des secteurs entiers qui étaient déjà attaqués d'une manière générale.
Alors, le grand changement, c'est ce que vient de dire Raphaël, c'est l'innovation. Pendant des années, on avait vécu sur l'idée d'une Chine qui copiait et qui n'innoverait pas.
Oui, et puis des produits de mauvaise qualité.
Ça ne date pas d'il y a 5 minutes.
Non, bien sûr que non. Mais c'est quand même un changement qui s'est passé. Et puis, il y a surtout, comme l'a dit Christian, il y a aujourd'hui un problème avec l'OMC. La Chine est rentrée dans l'OMC. Oui, l'OMC, c'est aussi une somme de règlements. C'est aussi le règlement de conflits commerciaux et d'atteinte.
Et la Chine a été condamnée l'été dernier sur de la propriété intellectuelle.
Oui, sauf que l'OMC aujourd'hui est rendu dans l'incapacité d'agir, a été profondément affaibli par la position américaine, qui a consisté à bloquer un certain nombre de choses à l'OMC. Il faut des règlements internationaux si on veut. On ne peut pas uniquement.
Mais Hervé, est-ce que c'est fini ce temps-là? Non, on est
Mais il faut faire comme les Chinois.
Est-ce qu'il y a encore des règles internationales?
Il faut faire comme les Chinois. Vous vous rappelez pas cette intervention de Xi Jinping à Davos il y a quelques années qui disait qu'il avait fait un plaidoyer pour le libre-échange? Il y a la main gauche qui vous dit on va suivre l'ONC, on fait du libre-échange, tout est bien. Et puis la main droite.
Il joue la contre-programmation de Donald Trump.
Qui fait complètement le contraire. Donc faisons la même chose. C'est-à-dire continuons à effectivement à agir au niveau de l'OMC, à porter plainte. Les plaintes prennent des années. Les répercussions des condamnations, je serais curieux de les connaître. Ça doit être rien, à mon avis. On faisait bien. Et à côté de ça, agissons fortement. Agissons fortement. Donc sortons de cette naïveté. Il ne s'agit pas de dire qu'on va sortir du droit international, parce qu'effectivement, la position de Trump sur certains sujets est totalement condamnable, ridicule, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, ne soyons pas naïfs. Donc oui, ça y est, l'OCDE et d'autres se saisissent du problème. Enfin, il était temps. Maintenant, ayons quelles vont être les mesures pratiques, concrètes qui vont être prises rapidement? Moi, c'est ça que j'attends de voir.
On a été trop naïfs face aux Chinois, Thomas Grébin?
Oui, je suis d'accord. Malheureusement, cette vague chinoise, il y a eu deux vagues. Il y a eu la première vague dans les années 2000 où on n'a pas réagi de façon très insuffisante. Alors, l'argument invoqué à l'époque, c'était que c'était des secteurs à faible valeur ajoutée, comme le textile, oui. Et donc que l'Europe avait vocation à être dans des secteurs.
Oui, et puis, c'était du gain de pouvoir d'achat pour le consommateur aussi.
Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Enfin, c'est ça, plus nos secteurs de pointe qui ont fait le cœur de notre création de richesse. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, c'est l'automobile, c'est la machine-outil, c'est la chimie, c'est la pharmacie, le nucléaire, tous ces secteurs qui ont de nouveau qui ont fait le cœur de la puissance européenne sont menacés par le rouleau compresseur chinois. Et oui. C'est vrai que, alors moi quand je parlais d'un réveil, c'est relativement à l'Europe. Je suis tout à fait d'accord que cette montée en puissance, on aurait pu réagir beaucoup plus tôt, notamment dans l'acier, où on voit les très très grandes difficultés depuis des années du secteur sidérurgique, et on attend en fait qu'il soit...
Alors, je dirais, on a enfin réagi, non, sur l'acier,
on a enfin réagi, mais dans un moment où l'acier est très 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 fortement affaibli. Donc en fait, c'est mieux de réagir quand les industries sont suffisamment fortes pour affronter la concurrence internationale. Mais il y a quand même un changement. Même en Allemagne, vous voyez dans la presse allemande, vous voyez que quand même le logiciel est en train de changer. Et moi, le risque que je vois, c'est que ça change trop lentement parce qu'il y a une divergence d'intérêts qui est très importante en Allemagne entre les grands groupes, notamment automobiles, qui sont très puissantes au cœur du
patronat. Il faut qu'on explique ça.
Chimiques aussi.
Chimiques, qui ont beaucoup investi en Chine et qui continuent d'investir en Chine et qui compte sur les ventes sur le marché chinois. Mais le problème, c'est que c'est par exemple Volkswagen qui maintenant annonce qu'elle va produire des modèles en Chine, donc avec des ouvriers chinois, des ingénieurs chinois, des sous-traitants chinois, et les produire pour
les vendre aux Européens.
Pour les exporter vers le reste du monde.
Aussi.
Donc ce qui est quand même hallucinant, et c'est là où il y a une déconnexion de plus en plus forte que nous, on avait connue en France dans les années 2000, entre les intérêts de ces grands groupes internationaux qui peuvent avoir intérêt de produire en Chine, parce que c'est là où ça se passe, notamment en termes d'innovation, c'est là où les coûts de production sont 30 à 40% plus faibles que chez nous en Europe.
C'est ce pourquoi plaider Serge Tchuruk à la fin des années 90 France.
Mais la grosse difficulté, c'est qu'est-ce que sera demain en Europe la création de valeur ? Qu'est-ce que seront les emplois de qualité
C'est là que les politiques doivent intervenir. C'est-à-dire que moi, je comprends la position des grands industriels allemands, parce qu'effectivement, pour eux, c'est je ne dis pas que c'est une question de vie ou de mort, mais s'ils coupent le marché chinois, ils se coupent un bras ou plus. Je crois que Porsche a diminué ses ventes en Chine de 40%. Enfin, c'est complètement colossal. Je veux dire, maintenant, on voit aujourd'hui, il y a un débat pour créer le Made in Europe, là. Et effectivement, ce qui freine aujourd'hui, c'est BASF.
Le débat sur la préférence européenne,
etc.
On a un quota de matériaux européens.
Maintenant, c'est une vision qui est... la vision politique, pour le coup, est de plus long terme. Une remarque quand même, OK, le constat semble être là, à l'OCDE ou même à la Commission. Mais encore une fois, quelles sont les réponses et quelles sont les mesures qui sont prises? Est-ce que la Commission a complètement laissé tomber son sujet de préférer systématiquement la concurrence et donc le prix faible pour les consommateurs?
Vous avez la bataille entre la DG Trade, qui est toujours sur un logiciel libre-échangiste, et
c'est pas fini, par exemple,
ou du marché intérieur, qui est un peu plus protectionniste.
C'est politique d'arbitrer.
Ça va être le sujet du Conseil juin, effectivement. Le grand problème, vous soulignez le sujet de l'industrie automobile allemande, c'est que l'État allemand suit ce que dit BMW et Mercedes, et qu'on est en train de développer au niveau de la Commission des outils de rétorsion là, pour l'industrie. Un paquet va sortir d'ici le mois de juillet sur la tech et le numérique aussi, mais tous les États ont peur à la fois de la rétorsion chinoise et de la rétorsion américaine sur le numérique.
Vous avez raison de citer le numérique parce que c'est la même chose. C'est peut-être un sujet un peu pointu, mais il y a le SecNum Cloud qui a été créé en France pour créer
la sécurité numérique sur le cloud
européen,
pour préserver
pour l'avoir suivi de manière extrêmement proche quand je m'occupais de ça au MEDEF. Nos amis allemands étaient quand même mitigés sur le sujet. Les Hollandais étaient totalement contre. Bon, mais là, ils changent aussi. Bon, voilà.
Ça avance quand même petit à petit.
Ce que j'allais dire, Raphaël, c'est que restons positifs, ça avance. Mais il faudrait qu'on passe à seconde, ça y est, on a fait le constat. Ah oui, dis donc, faut peut-être qu'on allume les phares et qu'on passe en seconde. Bon, mais allons-y.
Bon, pensez qu'on va pouvoir, Thomas, passer à la seconde. Est-ce qu'on y arrive ou pas? Moi, j'ai l'impression, pour l'instant, que l'Europe est tétanisée et a peur et qu'on n'ose pas s'affirmer face aux puissances et aux empires.
Non, je pense que c'est le cas. On a peur et le risque, c'est qu'on se fasse manger, que ce soit sur la tech ou sur l'industrie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur la tech, dans les années 2000, on s'est fait manger. Il y avait la stratégie de Lisbonne qui avait été annoncée.
On devait être la première économie de la connaissance en 2020.
25 ans après, on en est malheureusement très loin et on a plutôt décroché. Et puis, sur l'industrie, on a quand même dominé l'industrie mondiale pendant plus de 50 ans. Et dans tous les secteurs où on a dominé, maintenant, on est en retard sur l'automobile. Mais l'automobile, c'est 14 millions de salariés, oui, d'emplois directs et indirects, pardon, au niveau européen.
Et 14 millions d'automobiles produites.
Et là, on a aujourd'hui presque 10 ans de retard sur les Chinois. C'est quand même extrêmement spectaculaire. Sur la machine-outil aussi, la machine-outil allemande commence à être en retard sur ce que font les Chinois. Sur les TGV, les trains à grande vitesse, les Chinois savent faire des trains à une vitesse que 400 km/h que nous, on ne sait pas faire. Donc tout ça, c'est quand même très spectaculaire. Et donc, il y a un début de réaction européenne, mais c'est encore très faible. Donc il faut à la fois de la protection et il faut surtout de l'innovation, de l'investissement
pour des subventions, on en parlait tout à l'heure,
pour rattraper notre retard.
Il y a quand même un sujet, c'est que dans un jeu à trois, parce que c'est un jeu à trois, on parle de se défendre contre les Chinois, oui, il y a les Américains, puis il y a l'Europe. Et Bismarck, dans un jeu à trois, disait il faut être deux. Il y a aussi des alliances intelligentes qui peuvent être faites pour contrer, par exemple, l'IA chinoise, avec ce dont je parlais tout à l'heure, de l'IA, des agents IA et de l'intelligence artificielle qui nous vient de la Silicon Valley et qui progresse vraiment de manière très forte, y compris pour aider l'industrie. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision dans laquelle on peut nouer des alliances ponctuelles sur des sujets précis, parce que face aux deux, il faut, on pourra pas avoir une réponse sur la forteresse Europe quand on voit tous les atermoiements qui ont eu lieu. Vous savez, mon premier job, c'était dans la sidérurgie française. Dans la sidérurgie française, je me souviens, on rédigeait déjà des notes à l'Europe pour se plaindre de la concurrence déloyale chinoise. Et on demandait que les droits anti-dumping européens soient appliqués. Et il fallait des mois et des mois. Et la sidérurgie française a disparu progressivement parce que le droit anti-dumping européen était inadapté. Il y avait une vision qui était surannée, il faut bien le reconnaître, où on se méfiait de du gigantisme d'une entreprise européenne. Oui. On ne voulait pas d'une grande entreprise européenne. Et il y avait donc une incapacité à faire grandir nos entreprises au regard d'un droit de la concurrence qui ne prenait pas en compte le monde. Et c'est parce qu'en 58, quand on a fait le traité de Rome, la mondialisation, elle n'en était pas, elle était dans les limbes.
Ça vous fait réagir sur Twitter, sur mon compte @legenrat, alternance, qui nous dit les Chinois nous dépassent partout, sauf l'aéronautique. Alors, vous allez me dire peut-être que ça va pas tarder, Thomas Grébine. Le luxe italien est fait par des Chinois, les tracteurs, les voitures, matériel de construction chinois sont plus innovants et moins chers. Ils nous dominent dans l'électronique et le numérique. C'est fini. Bon, ouais, non, il va falloir nourrir un peu.
Il ne domine pas dans le numérique.
Christian Poyot, puis Thomas Galine.
Je ne vais pas exagérer sur ce sujet, il ne domine pas dans le numérique d'une manière générale. Donc,
mais là, c'est les Américains qui nous dominent pour le coup.
Oui, c'est les Américains, mais il faut arrêter de dire qu'on peut, encore une fois, maîtriser l'ensemble de quelque chose. Je reprends le mot forteresse où on domine tout. Il faut être souple, adaptable, on va prendre tel point, effectivement, on va faire des accords avec certains, etc. etc.
Oui,
et arrêtons d'avoir cette vision très, très théorique, parce que vous dites l'Europe a peur. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un sujet, et on le cite souvent à cette antenne aussi, qui est cette folie normative. Alors, normative sur 50 000 choses.
Sur laquelle la Chine travaille beaucoup. Le pouvoir des normes, c'est aussi
Après, il y a la réalité, des normes. Ah oui, enfin, il y a deux choses. Il y a la réalité des normes pour imposer des normes, je ne sais pas quoi, une prise électrique. Moi, je parlais de normes environnementales ou des normes du travail ou des choses comme ça. Bon. Non pas qu'il faille les rayer, et l'exemple américain, ça n'est pas le bon à suivre, mais encore une fois, sachons raison garder et trouvons le bon équilibre. Au-delà du fait qu'on a peur, mais moi je pense pas, c'est nous Européens qui nous tirons des balles dans le pied, qui nous mettons des freins sur des kilomètres de choses. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Regardez là sur les terres rares, ça y est, on commence à bouger. Ben oui, on réouvre des mines ou des extractions de lithium ou d'autres choses, etc. Alors faisons-le en étant attentif à un certain niveau raisonnable de protection de l'environnement. Évidemment, l'urgence climatique est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté.
On n'en veut plus de tous ces process industriels qui polluent en Europe aussi.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on veut c'est le fameux truc sur les Chinois. Noisettes où on interdit la production de noisettes en France.
Et puis en Italie.
Là, il y a la loi, je n'ai pas vu le détail, qui est passée, je crois, à la Chambre.
Oui, aujourd'hui, elle doit être votée aujourd'hui, la loi de l'urgence agricole.
Qui va quand même faire bouger les choses. Donc, au-delà de dire c'est les autres qui, non, regardons-nous, c'est nous-mêmes qui nous tirons les balles dans le pied, qui ne sont pas assez réactifs et assez volontaristes sur le développement de notre économie.
Thomas Grébine.
D'accord, je pense que il y a un gros problème de priorisation en Europe. La semaine dernière, on a publié avec Matteo Torres un article sur les plans quinquennaux chinois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la priorisation quasi absolue qui est donnée à l'industrie et à la souveraineté technologique. Et tous les autres objectifs sont plus ou moins soumis. C'est-à-dire, on parle souvent, la Chine va réorienter son marché intérieur. On voit bien que dans le document, c'est complètement secondaire par rapport à la priorité industrielle. Et sur l'environnement, c'est très clairement, on développe une industrie verte et c'est ça qui va permettre de faire la transition écologique. Mais la priorité, c'est d'abord l'industrie, c'est d'abord la souveraineté technologique.
Ils arrivent toujours à réaliser leur plan.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il n'y a pas de démocratie.
On n'a pas les chiffres sur le plan non plus. Non.
Mais aussi parce qu'ils ont des priorités qui sont clairement définies. Nous, en Europe, on a une année où on priorise la transition écologique, où on va faire, par exemple, des dispositifs type la ZAN. Et l'année d'après, on va se rendre compte, ah ben mince, on peut pas construire de gigafactory, donc on va revenir sur les textes. Et en fait, on modifie chaque année les objectifs parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est très difficile d'être capable de concurrencer.
Qui viennent modifier les priorités. Vous parlez de priorités. Leur grand avantage, entre guillemets, parce que ça n'en est pas un de mon point de vue, leur grand avantage, c'est que les plans, je le disais, ils les réalisent parce qu'il n'y a pas d'alternance. Et donc, ça permet à
les bienfaits de la démocratie.
Voilà.
Une maison tenue, un pouvoir fort.
C'est aussi qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas toujours dire les Chinois, vous vous rendez compte, ils réalisent ça. Ben, bien sûr, il n'y a jamais aucune contradiction dans leur système. Et nous avons des grosses difficultés dans nos contradictions. Ouais, maintenant, on fait de la démocratie.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. C'est terminé. On pourrait en débattre pendant des heures. On le refera à Christian Poyot, ne vous inquiétez pas. Merci Christian Poyot, merci Hervé Novelli et Thomas Grébin pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay.